Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 16 avril, Johannes Riwar est mort avant d'être jugé. Il avait été accusé d'avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants issus de la communauté inuite. C'est officiel, la montée du chemin 9 dans le Vieux-Lyon sera bien fermée à la circulation automobile pour permettre le passage en toute sécurité des vélos. Une expérimentation de 9 mois sera menée à partir de cet été. Le risque d'allergie au pollen au plus haut dans le département du Rhône, en particulier à cause des températures élevées et des pluies de ces derniers jours. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu va fêter son bicentenaire, notamment à travers une exposition, rencontre avec Mathis Farcy, doctorant en histoire et adjoint au commissaire d'exposition de l'expo Un long fleuve intranquille. Et puis France Travail qui propose ce mardi un forum dédié à l'alternance, c'est au Groupama Stadium.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Johannes Riwar est mort avant d'être jugé, accusé d'avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants issus de la communauté inuite. Le père Riwar est mort la semaine dernière à l'âge de 94 ans. Depuis plusieurs années, il résidait dans un EHPAD à la Croix-Rousse. Missionnaire au sein de la congrégation catholique des Oblats de Marie-Immaculée, il était parti en 1960 s'installer dans le Grand Nord canadien, où il officiait dans des pensionnats isolés au sein desquels des enfants inuits étaient envoyés. Les premiers plainte à son encontre pour des faits d'abus sexuels remontait à 1993. Le prêtre avait fui le Canada, s'installant dans le Vaucluse. Les Oblats de Marie-Immaculée assurent qu'ils n'étaient pas au courant des accusations qui pesaient sur le prêtre avant 2013. Johannes Riwar n'a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés. En 2022, un nouveau mandat d'arrêt canadien avait été émis à son encontre. Le pays réclamait son extradition. La France a toujours refusé d'extrader Johannes Riwar, détenteur de la double nationalité franco-canadienne, afin qu'il soit jugé au Canada, où les crimes sexuels sont imprescriptibles. La France refuse toujours les demandes d'extradition de ses ressortissants, rappelle le ministère de la Justice. La mort de Riwar, sans qu'il n'ait jamais été jugé, c'est une peine que les victimes prennent à vie, a commenté hier le collectif des victimes.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
C'est officiel, la montée du chemin 9 dans le Vieux-Lyon sera bien fermée à la circulation automobile pour permettre le passage en toute sécurité des vélos. Une expérimentation qui va durer 9 mois, menée dans le cadre de la création de la voie lyonnaise 12. Le début de l'expérimentation coïncidera avec la fin des nuits de fourrière. Le haut de la rue de l'Anticaille passera en sens unique et la montée du chemin 9 sera réservée aux ayants droit. Près de 10 000 cyclistes par jour sont attendus sur le secteur d'ici 2030. Une banderole qui a été déployée par des activistes écologistes d'Extinction Rebellion sur la façade de la raffinerie de Fezin, avec la mention « Total, fini tes crimes et tes clowneries ». Une quinzaine de militants issus du mouvement lyonnais Extinction Rebellion se sont introduits dans l'enceinte du site classé Céveso pour faire la fête à Total à l'occasion du centenaire de Total Énergie. Une action dans le cadre de la campagne nationale Carnage Total visant à dénoncer, je cite, « les projets de bombes climatiques ». Les forces de l'ordre ont été dépêchés sur place, les militants avaient déjà quitté les lieux à leur arrivée. Le risque d'allergie au pollen est au plus haut dans le département du Rhône, en particulier pour les pollens de bouleau. Dans le département, le risque allergique est ainsi classé au niveau élevé. En cause, les températures très élevées de ces derniers jours. Les pollens de platane restent aussi bien présents. Un risque allergique de niveau modéré pour le platane. Ce sont les micro-aiguilles contenues dans les bourres de platane qui sont très irritantes et qui peuvent provoquer de la touffe. Le risque allergique est encore classé faible pour les pollens de chêne et de graminées. Certaines graminées toutefois sont déjà en fleurs. Cette précocité est attribuable aussi à la grande douceur et aux précipitations abondantes de ces dernières semaines.
Lyon demain, découverte.
L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu fête son bicentenaire. Une série d'événements est programmée de mai à octobre. Objectif, célébrer les 200 ans du plus vieil hôpital psychiatrique du Rhône. Un hôpital créé par deux frères de l'ordre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu. Voué à la fermeture dans les années 70 du siècle dernier, l'établissement sera finalement sauvé grâce au conseil général qui se porte acquéreur. Nous avons rencontré Mathis Farcy, doctorant en histoire et adjoint au commissaire d'exposition de l'expo intitulé « Un long fleuve intranquille ».
Alors cet hôpital, en tant qu'hôpital psychiatrique qui existe depuis 200 ans, reflète inévitablement l'histoire de la psychiatrie, mais je dirais aussi l'histoire des populations, des classes populaires et aussi de la santé depuis un peu plus de 200 ans, dans tous les cas. Que ce soit alors l'histoire de la prise en charge des personnes atteintes de ce qu'on peut qualifier de troubles psychiques à certaines périodes, de maladies mentales parfois, ou simplement de maladies, mais également de l'évolution des psychotropes, de l'évolution de la contention ou pas, des modes de prise en charge en tout cas de ces personnes.
Quelles sont les dates clés sur ces 200 ans par exemple, si on devait distinguer différentes périodes?
Alors je dirais premièrement c'est 1824, la création de l'hôpital au sein du château de Champagneux, puis il y a des grandes phases de travaux tout au long du 19e siècle. On va dire que le 19e siècle est plutôt marqué par un ensemble de travaux, d'agrandissements avec une population hospitalière qui ne fait que croître. Puis ça nous emmène directement à la Première Guerre mondiale où l'hôpital fait fonction d'ambulance militaire. Alors il fait déjà fonction d'ambulance militaire pour la guerre de 1870. Et donc l'hôpital accueille un ensemble de soldats blessés qui vont réquisitionner un certain nombre de services. Puis la Seconde Guerre mondiale où l'hôpital, contrairement à d'autres dans la France entière, ne subit pas une famine aussi massive qu'on peut connaître par exemple au Vinatier, puisque les hôpitaux psychiatriques pendant sous la période de l'occupation connaissent de grosses périodes de famine. Il y a plus de 45 000 morts dans les hôpitaux psychiatriques français pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a un ouvrage qui est paru dans les années 2000 par Isabelle von Bussinsloven qui explique que contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas le régime de Vichy qui a tenté de tuer les malades mentaux, mais il y a eu des tentatives, les médecins ont œuvré pour sauver ces malades, mais en vain parfois, puisque à l'échelle de la France, la famine sévissait dans de nombreux foyers, et notamment dans de nombreuses institutions. Et en autre date clé, je dirais qu'il y a 1980, le départ des frères, le tournant un petit peu laïque de l'hôpital, ou du moins le moment où ce tournant laïque est un petit peu acté, un tournant laïque qui s'opère en fait depuis plusieurs décennies, et puis aujourd'hui, qui est un petit peu le point clé de cette histoire aussi, c'est comment on retrace une histoire du 19e siècle à nos jours et quels sont les points d'écho qu'on retrouve entre hier et aujourd'hui.
La psychiatrie fait peur encore aujourd'hui ou ça a vraiment changé ?
L'imaginaire collectif autour de la psychiatrie est toujours un petit peu dur, un petit peu difficile. On a toujours en tête les images des films comme Vol au-dessus d'un nid de coucou et un ensemble de films qui corroborent, on va dire, une image assez négative de la psychiatrie, très carcérale, avec des patients qui sont un petit peu fous furieux, alors qu'en réalité, on se rend compte que depuis le 19e siècle, l'image de l'hôpital complètement clos, complètement fermé est assez réductrice, que beaucoup de malades sont dans des capacités tout à fait normales, ou ce qu'on considère en tout cas comme être normal, et que ni les malades d'hier, ni les malades d'aujourd'hui ne sont des fous furieux, bons à enfermer, mais ce sont des gens qui ont besoin d'aide et qui sont accueillis à certaines périodes avec différents modes de prise en charge. Mais c'est vrai qu'il y a un ensemble de stéréotypes autour de la psychiatrie que l'exposition à Long Fleuve Intranquille se donne pour mission un petit peu de déconstruire ou au moins de questionner.
Alors Long Fleuve Intranquille, c'est quoi Intranquille ? C'est qui ?
Alors Intranquille, c'est déjà tiré d'un poème de Fernando Pessoa. L'intranquillité, pour lui, signifie un petit peu tout ce qui se rapporte à la maladie psychique, aux troubles psychiques, à la maladie mentale finalement. Et donc on a voulu reprendre un petit peu en clin d'œil ce terme-là de l'intranquillité, le long fleuve intranquille, à la fois parce qu'on parcourt un long fleuve, le long fleuve de 200 ans d'histoire, et un long fleuve qui est forcément intranquille parce qu'il se fait par à-coups, par tâtonnement, qu'il évoque aussi cette problématique de la maladie psychique qui effectivement évoque à la fois l'intranquillité, les à-coups, et qui est entourée par un ensemble de stéréotypes aujourd'hui.
L'exposition que vous proposez, elle va nous donner à voir quoi exactement ?
L'exposition va donner à voir déjà un ensemble de documents, d'objets, de traces d'histoire, que ce soit des documents d'archives du 19e siècle ou du 20e siècle, des photographies, des témoignages oraux qu'on pourra écouter à certains endroits ou lire à d'autres, des objets de la psychiatrie. Mais elle va surtout permettre de questionner un ensemble de thématiques liées à l'histoire de la psychiatrie, mais aussi à l'histoire de cet établissement particulier. Alors à la fois la question de la restauration de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu au 19e siècle et comment cette communauté évolue, la question du bâtiment, de comment on construit à partir partir d'un château qui est le château de Champagneux, un hôpital qui existe toujours aujourd'hui, avec des phases de construction, de déconstruction, un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale qui détruit une aile entière de l'hôpital. La question de soigner, comment on soigne hier, aujourd'hui, à travers quel mode de prise en charge, de soins, qui sont les personnes qui soignent, mais également qui sont les personnes qu'on soigne, c'est-à-dire principalement des hommes du 19e jusqu'au 20e siècle, avec l'arrivée progressive des femmes parmi les patientes en 1972 et également des femmes parmi les professionnels de l'hôpital à partir des années 1950. L'exposition va aussi s'intéresser à la question de l'administration, comment est-ce qu'on dirige un établissement, à la fois comment est-ce que cet hôpital passe d'une direction totalement religieuse avec les frères de Saint-Jean-de-Dieu à une direction laïque avec le premier directeur Paul Monod en 1980, mais aussi la question de ce qu'on a appelé les coulisses de l'hôpital, c'est-à-dire ces personnes qui font vivre l'hôpital, jardiniers, personnes dans la forge, dans la menuiserie, dans les cuisines, et comment ces personnes revendiquent aussi, qu'elles soient soignantes ou pas, la question de l'économie, de la modernité, des évolutions que cet hôpital, dont cet hôpital rencontre à travers le temps. Et enfin la question de vivre l'hôpital, qui est un peu une porte ouverte vers la fin de l'exposition, comment est-ce qu'on vit dans l'hôpital, comment on entre, comment on sort, comment est-ce que finalement l'hôpital peut être un lieu de vie parfois au 19e et 20e siècle, un lieu de création, de récréation.
Mathis Farcy, doctorant en histoire et adjoint au commissaire d'exposition. L'exposition s'intitule « Un long fleuve intranquille, histoire de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu » à découvrir dans la chapelle de l'hôpital du 15 mai au 31 octobre, du mercredi au dimanche, de 11h à 18h. L'état civil de la mairie de Fezin a ouvert un guichet de délivrance des titres d'identité après avoir réalisé une pré-demande de création ou de renouvellement de carte nationale d'identité ou de passeport en ligne sur le site web de l'Agence nationale des titres sécurisés. Mais les administrés peuvent prendre rendez-vous ensuite en mairie pour finaliser leur démarche. Cette prise de rendez-vous se fait en ligne via le site internet de la mairie de Fezin. La remise du titre se fait ensuite sans rendez-vous aux horaires d'ouverture de la mairie, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30 et sans interruption le mardi midi. France Travail propose ce mardi un forum dédié à l'alternance, ouvert à tous les publics. Il se tiendra au Groupama Stadium à Décines de 13h30 à 17h30, l'occasion de rencontrer une cinquantaine d'entreprises. Plus de 200 offres en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation seront proposées par les recruteurs. Les candidats intéressés sont reçus individuellement. Les postes proposés lors de l'événement sont disponibles sur francetravail.fr. Le forum accueille aussi Cap Emploi pour l'accompagnement des personnes handicapées vers l'emploi, ainsi qu'Action Logement pour l'aide au logement des moins de 26 ans. Ouverte à tous, l'entrée est possible avec ou sans inscription. Rendez-vous cet après-midi au Groupama Stadium. La réouverture de la piscine de Gerland est attendue pour le mois de juin. Le Loup, qui a mené les travaux de réhabilitation du patrimoine de Tony Garnier, en a confié la gestion à UCPA Aqua Stadium, une marque du groupe UCPA qui étend ainsi son réseau de centres nautiques en France. L'UCPA proposera à Gerland des cours de natation, d'aquagym, d'aquabike ou encore du fitness. Le centre sera ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, grâce à un bassin extérieur chauffé. Des tarifs accessibles dans la lignée de ceux pratiqués dans les autres bassins de la ville pourront être appliqués grâce à une subvention de la ville de Lyon. La ville qui avait également subventionné le Loup pour effectuer les travaux de réhabilitation. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.